Europe 1, en balade avec le comte de Bouderbala. Frédéric Tabéhi.
Bonjour, bon dimanche. C'est avec un humoriste que nous partons en balade aujourd'hui, le comte de Bouderbala. Son premier one-man show a été vu par plus d'1 200 000 personnes. Il a même fini par acheter un théâtre où il joue aujourd'hui le deuxième, avec le même succès. Mais le comte de Bouderbala a également été basketteur. Il a joué dans la meilleure équipe universitaire des États-Unis, une histoire de dingue qu'il raconte dans un livre au titre bien choisi, Amazing. Il nous a donné rendez-vous dans son théâtre, Le République.
Frédéric Tadéhi, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Nous voilà dans l'entrée du République avec le comte de Bouderbala. Ça me fait drôle, j'ai presque la tentation de vous appeler monsieur le comte. Mais c'est vrai, on ne dit pas comte. Si, on dit comte.
Oh non, Samy, le prénom, c'est plus sympa. Le comte, c'était pour déconner.
Ouais, attends, ça reste.
Toujours sympa quand on appelle un mec de banlieue le comte. Un robot de surcroît.
Ouais, non, c'est ça.
C'était là pour la connerie de l'époque. On s'est fait appeler le comte de Bouderbala. Bouderbala en arabe, les haillons, les guenilles. Et le comte, parce que la ville de Saint-Denis, avec la basilique où tous les rois de France sont enterrés, c'est une espèce de faux noble, un aristocrate. Une connerie qui est restée de l'époque.
La ville de Saint-Denis, qui est votre ville natale, hein.
Ville natale et post-natale sûrement.
Parce que vous avez grandi.
Là où on vit, la rue où on vit, on va peut-être y rester.
Là, il y a toutes les affiches des humoristes qui sont actuellement à l'affiche. Nora Hamzaoui, Inès Reg, Seb Melia, Mathieu Longat. Ils jouent tous en ce moment là.
Oui, ils sont tous à l'affiche et ils cartonnent avec des super spectacles. C'est pas pour faire la promo.
Tout au fond là-bas.
Moi, c'est une catastrophe. Moi, c'est la banqueroute.
Comte de Bouderbala, nouveau spectacle numéro 2. Il est tout au fond. On dirait qu'il était remisé.
Il est puni. Il est puni.
Le premier one-man show a été vu par plus de 1 200 000 personnes. J'ai vu ça.
Ouais, ça a bien marché. Bon, on l'a tellement essoré. On l'a essoré pendant 8 ans.
Ah ouais, 8-9 ans. 200 000 en 8 ans, c'est bien quand même.
C'est mignon. Non, après, c'était parce que voilà, je suis pas très télégénique, moi aussi.
C'est ça.
Ouais, j'ai un gros problème avec les médias télé. Mais ça va mieux. Mais à l'époque, je n'arrivais absolument pas à aller en média télé faire le guignol. C'était pas du tout mon délire.
Ouais. Donc, pourtant, ça marche bien. Les vidéos sont beaucoup, beaucoup vues sur Internet.
Bah, les vidéos de spectacle.
Ouais.
Mais quand on va dans des émissions où
il faut être drôle.
Il faut se rouler par terre, où il faut faire des blagues, où il faut faire des flip-flaps, moi, je suis très, très mauvais pour ça. Il y en a qui sont bons, je respecte, mais moi, je suis absolument mauvais.
Et le numéro 2, il marche quand même?
Ouais, ça va, on se bat, Fred, hein, on se bat. Dans la jungle du rire.
Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement d'humoristes.
Oh là là, faut les tuer. Faut organiser un grand festival et au salut final à la sulfateuse. On n'en peut plus, les gars. Il y en a trop.
Cela dit, est-ce que l'économie supporte autant d'humoristes parce que parfois, on a envie de voir des spectacles moins drôles.
C'est vrai, mais en fait, il y a une constante, c'est qu'on vit dans un pays très, très dépressif. Les gens ont besoin de rire. Ça, le mec me tire une balle dans la fesse. Tu vois, il s'est fait l'anti-promo. Non. Après, on se rend pas compte du potentiel de super d'artistes qu'on a en France aussi. On a vraiment des bonbons comiques. C'est ça aussi.
Il y en a tellement et j'imagine qu'ils en vivent. Hein.
Ouais. Bah après, il y a à manger et à boire. Hein, c'est comme tout. Mais voilà, il y a des bons spectacles, d'autres moins bons. Après, c'est comme tout. Mais c'est facile. On peut tromper le public une fois, mais plusieurs fois, on sait vite qui est bon ou qui l'est moins. Hein.
Frédéric Tadéhi se balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Pourquoi acheter un théâtre? C'est pour se barricader au cas où ça marche moins bien ?
Non, c'était...
C'est déjà, pour jouer à domicile, peut-être.
Déjà, jouer à domicile, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on loue des théâtres, déjà, on est maltraité.
C'est vrai?
La plupart des propriétaires de théâtres, c'est des... Je ne veux pas leur cracher, leur jeter la pierre, mais tu as beaucoup d'épiciers. Donc ils viennent, tu as un créneau d'une heure et demie, tu dépasses de 5 minutes, on te vire comme un malpropre. Moi, c'était aussi déjà un rêve d'enfant. J'ai grandi à Saint-Denis, je voulais faire du one-man show, programmer des one-man show au TGP, Théâtre Gérard-Philippe. Mais comme c'est une scène nationale, les mecs me disaient « rentre chez toi et vite ». Donc moi, mon rêve d'enfant de 15 piges, c'était d'avoir une salle pour pouvoir faire ce que je voulais et pouvoir créer une synergie d'artistes. Et quand l'opportunité de reprendre le caveau de la République, qui était en perdition à l'époque, c'était une aubaine. Donc avec mon associé Jean-Philippe Bouchard, on s'est mis à crédit sur des générations. Et on a racheté la salle, mais c'est une salle qui a une histoire
qui est dingue. Mais alors pourquoi l'avoir rebaptisé le République ? Parce que le caveau de la République, il y a tellement de gens qui sont passés ici, c'était pas honteux comme nom.
Ah non, c'était même prestigieux, mais le délire du caveau, venant de la rue de là où je viens, c'était un peu mortuaire et ça me rappelait trop de mauvais souvenirs en fait. Donc je voulais sortir de ce délire de morgue, de mort, de corbillard, et puis partir sur un truc où c'est un endroit qui, je vais pas dire qui renaît, parce que ça fait 7 ans qu'on bosse ici, non pas 7 ans, mais ça fait 5-6 ans, donc ça se passe bien, et puis c'est central, et puis il y a plein de spectacles.
Ça a été créé au tout début du siècle, du 20e siècle.
Charles Bouvet, 1901. Le mec, il se transforme en Laurent Deutsch de l'humour. Non, ouais, Charles Bouvet, en 1901, qui rebaptise ici.
Ouais, c'est que Noël était ici, Raymond Souplex, l'inspecteur des 5 dernières minutes.
Edmond Meunier, Francis Blanche, Pierre Dac.
Et après la guerre, il y en a eu un paquet aussi. Boris Biro, qui était une grande star d'Europe 1, il était ici. Charles Aznavour.
Tu sais que tu as toutes les. Si tu veux, on va descendre. J'ai toutes les archives en bas, tu vas regarder. Ouais, c'est hyper impressionnant, mais c'est un endroit chargé.
Et plus récemment, Laurent Ruquier, Laurent Gérard, Gaspard Proust, Lévesque.
Ouais, plein. Ils sont Morel, François Morel, et qui d'autre Patrick Sébastien, Smaïn qui est passé ici. Ils sont, Henri Comasias. Dès qu'il est arrivé d'Algérie, c'est le premier cabaret qu'il fait. Il n'a pas un radis, il vient ici et les mecs le prennent directement.
Là, c'est la grande salle ?
Là, c'est la grande salle.
Les portes rouges, les sièges rouges.
Bon, on a refait les travaux hein, parce que
ça a été rénové.
Moment, c'était le bordel. on a fait une petite moquette sympathique. On a fait des petits, on a rajouté des sièges. Avant, là, la scène, elle allait jusqu'à là parce que tu avais le piano. Forcément, tu sais, c'était les chansonniers. Donc, tu avais à l'époque, c'était Anne-Marie Carrère qui Gaby Verlor, qui était plus dans faire des spectacles avec le piano. Après, tu as eu Sylvain Coudel. Mais là, on a coupé la scène. Et moi, je voulais vraiment faire un truc où tu es un peu comme à Londres, au Comedy Store, où tu es encerclé par les gens.
Ouais.
Donc, là, quand tu as la salle remplie, bon, c'est
là, c'est très stand-up, quoi.
Bah, tu peux pas faire autrement. Hein. Au torse sous plafond, 2m10, t'es mort. Quoi. Eric Antoine, ici, il fait une crise cardiaque.
C'est sûr. Tout sombre, tout noir, la scène, la moquette, les murs et les sièges rouges, ça pète, non ?
C'est pratique. C'est pas un délire de « on a envie de faire du tralala ». En fait, ici, le truc qui est génial, c'est que tu sais tout de suite si t'es drôle ou si t'es pas drôle.
Ah bon ?
Bah oui, parce que tu vois, tu peux pas te sauver, tu vois, t'as pas de coulisses derrière. Donc t'es avec les gens et si t'es là, tu meurs avec les gens. Donc si t'es pas drôle, tu le vois tout de suite.
Et on entre et on sort par où ?
Par le...
Comme les gens.
Comme les gens.
Ah ouais, mais si t'aimes pas, t'es mort.
Ah mais c'est pour ça que c'est compliqué aussi de bosser ici, de faire les spectacles, parce que t'es dans une convivialité, t'es dans une proximité, mais t'es dans une sincérité. C'est-à-dire que si t'es allergique aux gens, ils sont à un mètre de toi... les gens vont pas t'aimer du tout.
Et surtout qu'ils sont combien, 400, 450 là ?
Bah là, tu rentres 80, t'as 4, c'est une salle de 490. Ouais. Donc c'est, en fait, on pense que c'est une petite salle, mais c'est une grande salle.
Ouais, donc assez vite, mais déjà j'ai peur. On se retrouve juste après une pause avec le comte de Bouderbala qui nous fait visiter le République.
Formidable.
Frédéric Taddeï en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Nous sommes avec Samy Amezian, le comte de Bouderbala, au République, l'ancien caveau de la République, qu'il a racheté avec son associé Jean-Philippe Bouchard il y a maintenant 5 ans. Et il y a une deuxième salle, non ? Parce que vous avez fusionné le caveau de la République avec la salle d'à côté.
Bah ouais, et puis là, on est en train de racheter le Burger King. Hein ?
Non, mais la Comédie République, c'est vrai, il y avait la Comédie République non,
c'est
aussi.
Ça, ouais. Donc c'est une salle qui est en haut, qui est plus en longueur, qui fait 200 places. Mais en fait, on a plus racheté, entre guillemets, pour se protéger. Parce que comme elle s'était en vente, on ne voulait pas qu'il y ait par exemple un supermarché qui débarque, ou parce que tu te retrouves avec un supermarché au-dessus, c'est un peu compliqué. Donc on a voulu fusionner les deux salles pour faire l'entité du République.
Ouais, ça fait un peu multiplex comme ça.
Ouais, vite fait, hein, c'est vraiment... Là, t'es dans le multiplex du bled. Hein,
non, mais enfin, on remplit pas tout de suite 450 places, donc on passe par la salle de 200 avant.
Tu peux passer par la salle de 200, mais si ça marche très bien, tu peux venir dans la grande salle. Mais cette salle, la particularité, c'est qu'elle est modulable. En fait, un système de rideaux, Et selon comment tu marches, tu peux tirer les rideaux et remplir en fonction de ta notoriété.
Si je reviens le lendemain et qu'on a tiré les rideaux depuis hier, c'est que le spectacle marche pas si bien que ça, quoi.
Toi, Fred, si tu viens faire un spectacle, on tirera les rideaux, mais en configuration 5 personnes.
Oui, c'est ça. Voilà, mais oui, c'est normal, je suis pas drôle, moi. Comment est-ce qu'on sait qu'on est drôle ?
Ouais, en général, ça se sent tout de suite.
C'est vrai ?
C'est la chance du métier, c'est que tu vois directement si les gens... si les gens aiment et sont
Oui, mais avant de monter sur scène.
Avant de monter sur scène, en général, t'as plusieurs étapes. T'as l'étape de la famille qui te dit t'es drôle, tu devrais faire un spectacle. Faut se méfier de cette étape-là parce que souvent on fait rire sa famille, mais quand on est devant des inconnus, ça passe pas du tout. Mais après, il y a ce truc-là de se mettre en danger.
Il y a les copains aussi. Il y a l'étape des copains.
Ouais, c'est
ça. Peut être encourageante, mais là aussi, c'est pas décisif.
Pareil, c'est hyper subjectif parce que. T'as pas nécessairement un vrai humour qui peut parler à des gens que tu connais pas, qui peut passer. Mais après, c'est ces étapes-là. Tu fais rire ta famille, tes amis, après des inconnus.
Et les premiers inconnus, vous vous en souvenez ? La première scène ?
Ouais, alors moi, paradoxalement, ça s'est très bien passé. Ma première scène, c'était après que c'était plus compliqué. Et c'est là où j'ai vu comment il fallait changer mon écriture pour essayer de parler au plus large possible. Je me suis pris mon premier gros bide, je me souviens, au Café Oscar. Mais c'était un bide, c'était une horreur, c'était vraiment le suicide artistique, vraiment c'était une François Feldman avant l'heure, quoi, tu vois. Tout le monde debout, là-bas.
Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, quand on sort de là, on se dit, bon, ben, faut que j'arrête.
Non, parce qu'en fait, moi, vraiment, j'ai pris ce truc comme un kiff de passer un moment avec les gens, de déconner, de rigoler, de parler de sujets qui me touchaient moi, mais sans direct. Moi, je vois pas le beat comme une mort. C'est pas une mort artistique, au contraire, c'est une étape, parce que c'est grâce au beat que tu vas améliorer ton écriture, et c'est un passage obligé. Tout le monde
et ça arrive encore aujourd'hui, de temps en temps, de faire un beat.
Ah ouais, ça arrive. Mais après, c'est les circonstances spécifiques. Alors, c'est soit le spectacle est vraiment pas bon, mais ça n'existe pas, un spectacle qui est mauvais en globalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où c'est un peu moins fort que d'autres moments, mais quand on est en processus de création, le bide, il est constant parce que tu testes tes vannes, tu vois si ça marche ou si ça marche pas, et bon, forcément, tu souffres.
La dernière qu'il a fallu supprimer, parce que vraiment, elle marche pas.
Non, bah là, finalement, je rôde le troisième, donc je loue une petite salle de 20 personnes, donc il y a 10-15 personnes qui me regardent. Bon, là, c'est une heure de souffrance. Mais je leur explique, je leur dis, voilà, ça va être très compliqué, ne considérez pas ça comme un spectacle, c'est plus une rencontre. Voilà. Donc là, je suis en rencontre.
Mais pourquoi louer une salle alors que vous pouvez jouer à domicile ici ?
Ben oui, mais là, tu te manges un beat devant 500 personnes ou même 200 personnes, ça peut être un échec retentissant. Ouais. Puis ça va tellement vite maintenant.
Oui, ils vont le dire, ouais.
Ben, c'est pas ça, c'est que t'as pas deux fois la possibilité de donner une première impression. C'est-à-dire que moi, je suis entre guillemets un inconnu par rapport aux gens. Les gens ne me connaissent pas, donc j'essaie de rester caché pour travailler de mon côté et puis d'avancer, quoi.
Je suis désolé, on ne va pas rester caché, on va partir en balade.
Voilà, ça va être une drôle d'histoire. Avec les micros dans la rue, voilà, t'as gagné la place de la République.
Eh bien, on y va, on se retrouve dans un instant avec le comte de Bouderbala, un micro à la main sur la place de la République.
J'ai hâte.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Nous sommes sur la place de la République avec le comte de Bouderbala, une place de la République qui a beaucoup changé ces derniers temps. Hein. Là, on est au milieu de Burger King, du KFC, McDonald's.
Le triptyque de la gastronomie cancéreuse.
Il n'y a plus que des endroits où on mange dans du carton avec les doigts.
Exactement.
Et puis sinon, c'est l'Hippopotamus, c'est Pizza Pino, des franchises.
C'est que là, t'es en train de vendre du rêve. Là, t'es en train de dire aux gens, venez vite, les gars. Bah, hein, c'est ici que ça se passe.
Il y a des tas de gens qui aiment ça. La preuve, c'est plein. Hein. Il y a beaucoup de monde. Ouais, enfin, c'est une autre place de la République, Buffalo Grill.
Et encore, t'as rien vu parce que le samedi, là, c'est une drôle d'histoire.
Ouais, bah, y a du monde. C'est une place populaire.
C'est un lieu de manifestation. Donc, on a la chance. Aussi de voir un petit peu toutes les revendications, la température du pays.
Ouais, il y a eu Nuit Debout pendant longtemps qui était là, hein, sur la place de la République.
Ah, Nuit Debout, pendant longtemps, Gilets jaunes, toutes les manifestations qui revendiquent.
C'était comment le Nuit Debout ? Parce que ça discutait beaucoup.
Ouais,
là, juste devant le théâtre, il venait ensuite se marrer ou pas ?
Bah non, paradoxalement, ils sont pas trop c'était pas trop dans le délire de venir rigoler, mais venez les gars, hein, que ce soit nuit debout, gilet jaune ou autre,
vous êtes fermé à personne,
on accepte tout le monde, parce que justement le débat est important.
Là, on est devant la statue de la République. Elle est très très grande. Elle est au centre de la place, avec en dessous trois statues en pierre. La liberté, l'égalité, la fraternité. C'était devenu un mausolée, là, en souvenir des victimes des attentats de 2015.
Bah ouais, on s'en souvient, parce que moi, au moment des attentats, j'allais sur scène. Donc 5 minutes avant, on me dit que les attentats ont lieu. Et 5 minutes après, je me retrouve sur scène avec 500 personnes.
Pas au courant ?
Non, mais justement, tu dois canaliser. Et justement, c'est là que tu te rends compte que ta parole, c'est une parole responsable. Enfin, tu as une responsabilité dans la prise de parole publique. Ouais. Après, tu passes un moment avec les gens, tu es aussi là pour les protéger. Et de surcroît, quand tu as une salle, tu as envie que les gens se sentent bien, en sécurité, et qu'ils passent un bon moment. Donc, c'était très, très mitigé, très compliqué à gérer.
Ça, c'était le 13 novembre ?
13 novembre, oui. Ouais.
Mais il y a eu ici aussi en 2016, en janvier 2016, il y avait eu l'hommage au dessinateur de Charlie qui avait été assassiné un an avant, et ça a été là aussi sur la place de la République. Il y avait François Hollande, il y avait Johnny Hallyday qui avait chanté. Vous étiez là ?
Non, j'étais pas là, mais ça résonne particulièrement chez nous, puisque Cabu, Tinius, ce sont des artistes qui ont fait les. Toutes les affiches du caveau de la République pendant des années. Ouais. On a encore leurs archives ici, donc oui, forcément, ça nous parle.
Et puis ça avait commencé au Stade de France, hein, à Saint-Denis, donc.
Ah ouais. Mais t'as d'autres sujets sympathiques à me proposer, Fred, là, parce que
on peut pas y penser quand on passe.
Un coup de calgon, enfoiré.
On va aller jusqu'au bout. On va écouter la chanson qu'avait chantée Johnny ce jour-là sur la place de la République, un dimanche de janvier. C'était une chanson en hommage au dessinateur de Charlie Hebdo.
Allons-y.
On l'écoute et on se retrouve après.
Ah, est super.
Europe 1, en balade avec le comte de Bouderbala, Frédéric Taddeï.
Des millions de regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier. Garder en mémoire nos héros d'encre et de papier. Nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place.
C'était Johnny Hallyday qui chantait un dimanche de janvier, la chanson qu'il avait interprétée ici sur la place de la République en janvier 2016, en hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Allez, changeons de sujet, parlons basket. Puisque le comte de Bouderbala, avant de devenir le comte de Bouderbala, cet humoriste bien connu, a été joueur de basket. Et d'ailleurs, quand on tape comte de Bouderbala sur Google,
Google n'étant plus seulement un moteur de recherche, mais aussi un moteur de réponse. Il nous répond, Comte de Boudherbala, joueur de basket.
Ah bah tu vois, encore une blague, encore une blague.
Ouais, c'est vrai. Hein. Ah bah oui, il n'y a pas écrit humoriste, il y a écrit joueur de basket.
Ah c'est marrant ça. Ouais. Ah, vrai, comme quoi là, ça me...
Wikipédia, ça me ils mettent les deux. Ah. Mais Google, ils mettent que joueur de basket. Ah bah, vous avez même joué dans l'équipe d'Algérie, l'équipe nationale en 2000.
Exactement.
Ouais.
C'était un grand moment parce que j'ai rencontré l'Algérie entre guillemets à 20 ans. Pour représenter un pays que je connaissais peu, très peu.
Pays de vos parents.
Pays de mes parents, donc que j'ai appris à connaître après avec une formation accélérée. Mais ouais, c'était hyper émouvant parce que j'ai retracé le parcours de mes parents avant d'arriver en France. Et c'est un parcours où voilà, il y a eu un blackout total.
Ils n'en parlent jamais ?
Non, ils en parlent absolument peu. Parce que bon, mon père perd son père pendant la guerre d'Algérie. Et
donc, quel côté son père ?
Côté FLN. Donc côté FLN. Et puis il rentre en France. Enfin, il vient en France pour faire une formation. Et puis il se marie avec ma mère à 17 ans. Ma mère qui le rejoint en France et ils s'établissent à Saint-Denis où on est né avec mes frères et sœurs.
D'accord. Donc avec l'équipe d'Algérie, vous prenez une pile devant l'Égypte quand même.
Exactement, premier match, mais on arrive en finale à Alger.
C'était
on
quoi
perd.
La Coupe d'Afrique
Non, c'était le championnat arabe des nations.
Ah ouais.
Voilà, donc que des moustachus. Et on se retrouve face à l'Égypte, qui est une grande nation de basket. Et on perd à domicile, donc là, c'est compliqué. Là.
Ouais, non, on aurait pu penser que là c'était fini, et en fait ça va pas être fini. On se retrouve dans un instant avec Sami Amezian, le comte de Boudherbala, et sa carrière de basketteur.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Boudherbala sur Europe 1.
Nous sommes boulevard du Temple avec le comte de Boudherbala, mais il est en grande discussion avec un fan.
Ah ben j'aime beaucoup vos spectacles parce que déjà vous épargnez personne, c'est politiquement incorrect et ça j'adore. J'ai horreur du politiquement correct, donc j'aime beaucoup vos spectacles,
c'est
voilà.
Gentil, ça.
Voilà,
j'adore. Ça fait plaisir. Bon, on a bien fait de faire en sorte de faire venir un figurant au même moment dans le timing. On est
Ah ben écoutez, bon courage et puis ben voilà, continuez à nous faire rire parce que il n'y a plus que ça maintenant.
Heureusement qu'il y a le rire, c'est
voilà,
clair.
C'est pas, l'humour n'est pas encore trop imposable, alors allez-y. Hein.
Ah ouais, bah, c'est pour ça qu'on y va à fond. Là.
Allez, à bientôt. Bien, content de vous avoir vu. Hein.
Gentil, au revoir, monsieur.
Au revoir. C'est cool, ça.
Ouais.
C'est bon, là tu tombes sur un mec qui te déteste et qui t'en met une. T'as gagné.
Non, coup de chance, le comte de Boudherbala est tombé sur un fan. Pas tout jeune d'ailleurs. Hein. Ah, bah ouais. Vous avez un public très large.
Ah, ça va de 7 à 77 ans. Oui. Ça fait plaisir.
Donc on disait donc que vous avez fait quand même une carrière de basketteur que vous racontez dans un livre qui m'a beaucoup plu, Amazing. Ah, amazing, cool. Le mot anglais, puisque. Alors que vous aviez 25 ans, donc la Coupe de le championnat d'Europe des Nations, le championnat d'Afrique des Nations était passé depuis un moment, vous avez 25 ans, rien ne marche quoi. C'est la cata. Vous vivez toujours chez vos parents, vous jouez au basket dans les pans division 5 à Poissy. Vous avez un diplôme qui ne vous permet pas de trouver de boulot. Et là vous voyez une petite annonce.
Exactement.
Et vous partez aux États-Unis.
C'est exactement ça. C'est qu'en fait, je suis avec mon ami d'enfance, feu, mon ami d'enfance William. On galère à la fac de Saint-Denis. On poursuit des études un peu laborieuses. Et on voit cette affiche partir étudier aux États-Unis avec la MICEFA. Et en fait, on se renseigne. Et c'est un programme hyper intéressant parce que tu paies les droits d'inscription universitaire français, 400 euros, à la place des droits américains, 40 000 dollars.
Ah ouais.
Et donc... À l'issue de.
C'est
de...
bon à savoir, hein. Il y en a plein génial. Que ça devrait intéresser.
Ben justement, moi j'appelle tous les étudiants à se renseigner sur la MICEFA parce que c'est moi ça a sauvé ma vie. Et donc je pars là-bas, mais il fallait réunir la somme de 10 000 euros quand même pour le loyer et la bouffe. Donc pendant
oui, et puis
un
ils
an.
Ils rigolent pas, hein, les Américains, il faut l'avoir sur un compte avant. Hein.
Ah, c'est clair. Et donc pendant un an, je me mets en tête de partir aux États-Unis et j'ai une bonne réponse pour l'université du Connecticut. Donc je me retrouve
et à... Attention, ce qui est important pour vous, l'Université du Connecticut, c'est que c'est UConn. C'est là où il y a la meilleure équipe de basket universitaire, hein, les Huskies,
exactement.
Qui sont champions.
à ce moment-là.
Ils sont champions en titre. Et moi, le truc, c'est qu'ils m'envoient à UConn parce que d'une, il y avait une bonne école de business. Et comme elle savait que je jouais au basket, elle me dit, bah, comme ça, en même temps, vous pourrez aller voir les matchs de basket, ça va vous plaire. Je dis, bon, bah, génial. On essaie de faire, d'être admis à UConn. Et on essaie de réunir cette fameuse somme de 10 000 euros. Et donc, pendant un an, j'ai fait tous les jobs possibles et imaginables pour essayer de réunir cette somme. Et il y a eu une solidarité familiale de mes parents, de mes frères et sœurs. Et c'est ce que je raconte dans le livre.
Et alors, ce qui est formidable dans le livre, c'est on a l'impression d'être dans un film, une comédie américaine. Un de ces college movies, comme il les aime, puisque vous débarquez là-bas et au bout d'une semaine... C'est ça qui est bien chez les Américains. Vous leur dites que vous jouez au basket, ils vous disent, bah là, il y a une bonne équipe, tu devrais aller voir. Et vous allez voir, et ils vous engagent.
Voilà, c'est
vous retrouvez au bout d'une semaine quasiment, à l'essai, chez les Huskies. 3 mois avant, vous la regardiez à la télé, quoi.
6 mois avant, j'étais en loose total à Saint-Denis à regarder la finale Georgia Tech Connecticut. 6 mois après, je me retrouve dans l'équipe de basket Connecticut.
Mais dans un stade immense, parce que les universités là-bas sont non seulement magnifiques, mais les équipements sportifs sont dignes du niveau professionnel en Europe. Hein. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous êtes à l'essai et ils vous font jouer pendant un match et vous marquez.
Exactement.
Et à la minute même, il y a plusieurs... Vous étiez combien dans le stade ?
Bon, en fait, dans le stade, il y avait 30 000 personnes.
30 000 personnes qui scandent votre nom. Samy.
Ouais, c'était un truc de dingue. Et en fait, le
ils n'arrivaient même pas à prononcer votre nom de famille, d'ailleurs. Hein.
Alors ça, c'était le commentateur. Le commentateur avait du mal à dire Amazian. Et donc, il disait Amazian, Amenaisi, Amazayani. Et à la fin, il dit Amazing. Et en fait, c'est resté.
Mais c'est vrai que ça ressemble à un film avec Will Ferrell... semi-pro sur le basket ou une comédie joyeuse, on se dit c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai, parce qu'ils vont vraiment vous garder, quoi.
Bah, c'est ça, en fait.
Vous allez jouer pendant une saison universitaire avec la meilleure équipe de basket universitaire aux États-Unis, c'est-à-dire avec des types qui vont être dans la NBA quelques mois plus tard.
Bah, exactement.
Vous êtes le plus vieux et vous êtes le plus petit, en plus.
Je suis le plus vieux, je suis le plus petit et je suis le plus perdu, parce qu'au niveau de la langue, l'anglais scolaire, c'est pas l'anglais américain, c'est pas le slang des Américains. Et puis, je me retrouve totalement perdu. Mais pour moi, c'était une aubaine, parce que ça a fait un reset dans ma vie, ça a changé ma vie sportive.
Et je on peut l'imaginer, oui, à ce niveau d'engouement, parce que sur un campus américain, le sportif est la star.
Bah, c'est plus que... Ouais, c'est un super-héros. C'est un...
Voilà, et
c'est
alors, un quand il est français, en plus...
Oh, moi, j'avais la chance, justement. Mais, en fait, c'était spécial, parce que t'es français, donc t'es un petit peu exotique. En plus, t'es basketteur, donc il y a eu une espèce d'engouement...
En même temps, il y a de la compétition avec les autres joueurs. Il y en a qui vous traitent de putain de français, et vous dites, enfin, on me juge ma vraie valeur.
C'est enfin vrai que la bonne, c'est pas français, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que...
Ici, il y a toujours un doute.
C'est ça, c'est en France, fils d'Algérien, t'es un petit peu considéré comme un autre. Et là-bas, c'était fucking French, immigrant, le clandestin.
Et puis toujours cette idée qu'ont les Américains, que les Français, je vous cite, n'ont pas de couilles. Je crois que ça date de... Ça ouais, date de, ça... la, de 39-40 et puis de la guerre en Irak, ça.
Ouais, il y a eu ça, et puis c'était justement cette période-là. C'était la période où la France, où avec le discours de Chirac, de Villepin, la France avait dit non à l'envahissement de l'Irak. Donc c'était, ça résonnait dans la tête des Américains. Ils étaient dans un truc French, you surrender, vous vous rendez face à l'ennemi. Il y avait un manichéisme comme ça, très très fort. Donc bon, voilà. Après, nous, on jouait là-dessus parce que faut pas confondre aussi l'esprit universitaire et l'esprit de l'Amérique globale. Donc, c'était assez différent. Nous, on avait encore, entre guillemets, on avait une petite cote. Voilà. Mais c'est là où j'ai vu le retard à combler. Mais j'étais ce qu'on appelle un bench warmer. Hein. J'étais un chauffeur de banc, un coupeur de citron. Mais même ça, c'était inespéré pour moi. Et j'essayais de gratter la moindre minute pour essayer de jouer.
Il vous faut jouer à chaque fois 3-4 minutes à la fin.
Ah, mais moi, je rentrais à chaque fois dans le garbage time. Mais, c'est-à-dire le temps de poubelle, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire quand le match est plié, bon, on fait rentrer la mascotte. Mais j'ai quand même réussi à certains moments à entrer parce que, justement, le coach commence à me faire confiance au fil de l'année. C'est ça qui était intéressant, justement, cette année-là. Et après, partir dans le truc d'aller provoquer la chance, en allant voir directement le coach. C'est ce que je raconte dans les livres. Et ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de faire auparavant, mais j'aurais jamais pu faire.
Et ça va changer votre vie. On se retrouve dans un instant avec le comte de Bouderbala.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Les amigos, les amigos de Madrid.
Fernando, Fernando, grand restaurateur, magnifique.
On est au restaurant Biondi, on est au 118 rue Amelot, un restaurant argentin. Donc,
on live, on est en live à Paris, il fait beau, il y a du soleil.
N'abuse pas.
Gris.
Et je suis avec un de mes meilleurs clients. Qui me suit il y a déjà 5 ans, donc je suis très heureux de l'accueillir.
C'est gentil.
Et comme d'habitude, ici on l'offre tout.
Il est chez lui.
Je suis venu dîner ici, on m'a rien offert. Donc il faut croire que pour que lui soit, ce soit gratuit, il faut qu'il y en ait qui paye.
Donc effectivement, c'est un joli quartier. Hein. Ouais. Merci qu'il s'est mis à République.
En plus, on a la chance, ouais. Fernando, il nous accueille assez tard. Donc on Pépé, finit les spectacles
Pépé Biondi, c'était un clown, hein, c'est
tout
ça?
Tout à fait, ouais.
C'était clown argentin.
Un vieux clown.
Et là, on est à côté du clown bar et à côté du cirque d'hiver. Le plus vieux cirque du monde.
Il y a un récap intellectuel avec tous les souvenirs de l'Argentine, la France, être dans les cœurs de Paris, hein, parce qu'on est au cœur de Paris, et essayer de ramener un peu de piment et de poivre sud-américain.
Il est bon, Fernando.
Et lui, il vient régulièrement. On l'aime beaucoup, lui, parce qu'il vient vers minuit.
On me déteste tous.
Vous parlez espagnol, non, en plus?
Un poco.
Intento de hablar, pero es muy difícil. Hace muchísimo tiempo que no he hablado contigo.
C'est vrai, c'est vraiment un grand gourmand. Non, de la vie, c'est vrai, tu manges très bien. Nous, ici, on a une sélection de vins. Moi, ça fait à peine 22 ans que je fais la cuisine, donc on essaye de pousser un peu au maximum la qualité. Et lui, il aime ça et... C'est pas pour tout le monde d'être gourmand comme
ici,
ça.
Ici, c'est de la viande française ou de la viande argentine?
Je fais un mélange maintenant. Je fais un mélange parce que je travaille avec l'os, sans os. Je fais français, je fais argentine, je fais écossais, je fais hollandais. Vraiment, tout le monde est représenté parce que la bonne viande, il y a partout. Hein. Je pense que tout le monde a la bonne viande. Nous, les Argentins, on n'est pas que... On est des grands mangeurs de viande, par contre, ça, on est les premiers du monde, mais on n'a pas la meilleure.
Non.
C'est une viande qui est assez jeune. Et...
Vous la vendez pendant que... à chaque fois qu'il y a eu une guerre mondiale, les Argentins sont devenus la première puissance économique du monde. Après,
on s'égave. Nous, on attend que ça.
Ils nous vendent de la viande.
Nous, on attend que...
Et après, on regarde les Argentins comme on regarde des milliardaires. Mais il faut une guerre mondiale
c'est
pour
vrai,
ça.
C'est vrai.
Ben, puisqu'on parle de l'Argentine, on va écouter la plus grande chanteuse argentine. Pour moi, c'est Mercedes Sosa.
Tout à fait.
Hein? Todo cambio.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el
pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.
C'était Toto Gambia, chanté par Mercedes Sosa. Ça veut dire tout change. Moi, je l'avais rencontré, Mercedes Sosa, et je lui ai demandé ce que voulait dire cette chanson que je trouve magnifique. Elle m'a dit, ça veut dire tout change. Moi aussi, je change. Ce monde change. Mais mon amour ne change pas, ni la douleur de mon peuple. C'est joli, non ?
Bah, c'est magnifique. Et surtout quand on revendique comme ça son peuple, c'est beau. Ouais.
Vous êtes né en 79, vous ?
Exactement.
En janvier, c'est exactement le moment où tout a basculé, tout a changé. Vous avez remarqué ? Bah non, vous étiez trop petit, vous.
Bah ouais, je sais que dans le monde, beaucoup de choses ont changé à ce moment-là. Moi, après...
Bah, y a Khomeini qui prend le pouvoir, Thatcher, puis Reagan. Juste avant, il y a eu Deng Xiaoping qui a pris le pouvoir en Chine et qui va instaurer le capitalisme en Chine. C'est le moment où, en fait, ce qu'on appelait les réactionnaires deviennent des révolutionnaires. Et ceux qu'on considérait comme des révolutionnaires passent la main, en fait. Les Khmers rouges perdent le pouvoir, l'Union soviétique s'embourbe en Afghanistan. Tout bascule à ce moment-là.
Ouais, ouais, c'est le changement. Justement, c'est, on passe d'un monde bipolaire à multipolaire aussi, globalement.
Oui, et puis moi, je trouve aussi un monde où on croit au progrès, à un monde où on n'y croit plus. C'est-à-dire qu'en janvier 79, personne ne l'a remarqué, mais moi j'étais déjà un peu âgé. C'est à ce moment-là qu'il y a un homme qui, pour la première fois, se fait assassiner par un robot. C'est à l'usine Flint, dans le Michigan.
D'accord.
Et il y a un type qui est tué par un robot. Et là, on ne croit plus du tout à l'avenir à partir de ce moment-là. On commence à s'inquiéter. Ah, donc là, on rigole, mais à l'époque, ça faisait peur.
Ouais, bon, maintenant, le monde est devenu tellement fou que... Bon, ce sont des faits divers qui deviennent malheureusement assez quotidiens. Mais justement, après, c'est le métier de comique, c'est d'essayer de rendre ces faits divers-là assez drôles malgré la dinguitude.
Allez, santé.
Samy ?
Ça a l'air bien.
C'est bon, il ne veut pas se prononcer parce qu'il connaît rien. Eh,
ça a l'air bien, ça.
Amigo.
On se retrouve dans un instant avec le comte de Bouderbala dans le restaurant Biondi.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Nous sommes toujours au Biondi, le restaurant argentin de la rue Amelot, avec Samy Amezian, le comte de Bouderbala. Quand on est un humoriste aujourd'hui, à quelle facilité il faut résister ?
À ce qui se passe dans la société française ou...
Non, je ne sais pas. C'est ce qui se passe dans la société française, à la fois, c'est pas drôle, et en même temps, on peut en rire.
Ouais, c'est vrai qu'on peut en rire, il faut en rire, mais on ne perd pas de vue qu'il y a des vrais problèmes, des choses graves qui se passent. Et puis,
est-ce que ce n'est pas vrai dans toutes les époques, ça ? Et à ce moment-là, on ne pourrait plus jamais se marrer, ou au contraire, ça fait la fortune des humoristes.
Oui, ça c'est un secret de Polichinelle, forcément. Ça fait la fortune des humoristes. Après, ça dépend du talent des humoristes pour tourner ça en dérision et faire avancer le schmilblick. Donc je pense qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent tout changer avec le rire, et il y a les autres. Donc moi, je pense pas qu'on peut tout changer avec le rire. On peut juste faire prendre conscience de certains problèmes. Encore faut-il les comprendre, faut que l'artiste puisse les comprendre et puisse trouver le bon angle de tir pour les rendre visibles et les déconstruire. Donc après, c'est le vrai travail, à mon avis.
Aujourd'hui, on est tous obsédés par l'identité, sans doute parce que on est en pleine mondialisation, donc on s'accroche tous à nos racines. Ça, par exemple... On sait bien que c'est un des trésors aujourd'hui dans lequel piochent les humoristes. On a l'impression que l'identité, c'est devenu un business humoristique.
Ah, c'est sûr, non, mais après, c'est les sujets, c'est pas ce qui manque. Après, c'est justement l'objet aussi du livre. Ce livre, c'est partir de France pour mieux la comprendre. C'est de sortir de l'ethnocentrisme franco-français pour vraiment prendre du recul et voir les sociétés qu'on nous propose dans les pays anglo-saxons et en France. Après, je dis pas qu'une société est meilleure qu'une autre, je dis juste que dans ce livre, qu'on a beaucoup de conservatisme en France et que par rapport aux autres, on pourrait s'ouvrir un peu plus.
Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, d'après ce que vous racontez, tout le monde vous encourage, tout le monde est positif. Ce qu'on disait tout à l'heure, si vous aimez le basket, bah, vas-y, fonce. C'est ça qu'on entend là-bas. Ici, on est plus circonspect. On vous dit généralement, oh là, ça va être difficile, ça va pas marcher.
Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce côté où la France est un peu une femme qui vous repousse de prime abord. Mais il faut vraiment prendre le temps... d'échanger pour arriver à se connaître un peu plus. Donc moi, c'est un peu la métaphore que je fais avec les États-Unis. Les Américains vous donnent la chance directement, mais il ne faut pas les décevoir. En France, on attend plusieurs années avant de vous proposer un café et de vous inviter à la maison. Donc je pense qu'on peut arriver à un compromis entre ces deux idéologies-là.
Vous racontez bien d'ailleurs comment ça se passe avec les Américaines sur le campus. Vous dites que déjà il faut faire gaffe au procès pour harcèlement parce que là-bas c'est devenu assez rapide. Et vous baissez les yeux rapide, vous, en général, vous avez peur qu'on interprète mal.
Bah déjà, moi, la chance que j'ai eue là-bas, c'est que j'ai trouvé un poste de prof de français. Donc j'étais TA, ce qu'on appelle Teaching Assistant. Donc je donnais des cours de français à des étudiants américains qui avaient 2-3 années de français. Mais on avait une formation de 2 semaines au départ pour comprendre les mœurs américaines. C'est-à-dire ne pas avoir de ce qu'on appelle de eye contact, de contact visuel
avec
posé, long. Quand on a des entretiens avec des étudiants, la porte doit être ouverte. C'est eux qui ont inventé l'open space. L'open space, c'est quoi? C'est un endroit où on voit tout le monde travailler et on sait qu'on peut contrôler les débordements possibles. Le bureau à la française, c'est complètement différent avec la porte fermée.
Bah, c'était, puisque maintenant on est comme les Américains.
Mais on tend à ça, justement. Et moi, c'est ce que je raconte aussi dans le livre et dans les spectacles. C'est qu'en fait, en France, on est les Américains avec 20, 30, 40 ans de retard.
Pour le meilleur et pour le pire.
Malheureusement. Et c'est justement, c'est en voyant ce qui se passe là-bas, on peut facilement anticiper et réussir à proposer une société un peu plus intéressante et un peu plus sérieuse. Quoi.
Mais c'est pas forcément gagné, comme on va le voir. En continuant notre balade avec le comte de Bouderbala, après les infos.
Europe 1. En balade avec le comte de Bouderbala, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Samy Amezian, le comte de Bouderbala, qui joue actuellement son second spectacle. Non, on peut dire le deuxième maintenant, puisqu'il y en a un troisième en préparation, dans son théâtre, Le République, et qui vient de publier un livre, Amazing, où il raconte son expérience quand il avait 25 ans. Aux États-Unis, à l'université du Connecticut, à l'époque où il jouait au basket au plus haut niveau, dans le championnat universitaire américain. C'est édité par AS Prod. AS Prod, c'est votre maison d'édition aussi. Hein. Vous êtes en train de devenir un trust à vous tout seul.
Un trust que je ne crois même pas. Mais c'était pour. L'aventure de l'édition, elle est née depuis un moment dans ma tête et j'ai vraiment voulu. Voir comment ça se passait de créer son livre, de travailler avec des professionnels. Donc je me suis dit, je vais créer une structure personnelle qui va refléter ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Et surtout...
Vous êtes en train de devenir un capitaliste.
Non. En fait, moi, c'est pas le côté capitaliste qui m'intéresse. C'est faire les choses soi-même et en toute indépendance. C'est vraiment le leitmotiv.
Il se trouve que là, on est boulevard Voltaire, juste devant la place de la République. On est de retour à l'endroit où se dressait une des plus grosses barricades du temps de la Commune. Hein. Pendant la semaine sanglante, ici, il y a eu des morts. Hein.
Ah bah, c'est une place chargée d'histoire. Donc, c'est un peu... tout se retrouve sur cette place parce que nous, on est juste en face. Le théâtre est juste en face. Et
c'est votre quartier, là. Là, c'est vos 3 hectares à vous, quoi.
Y vivre, c'est autre chose, mais on a la chance d'y bosser parce que c'est
un peu bruyant.
Ouais, c'est là où on voit que la vie à Paris est très très compliquée. Ah oui. Et qu'elle ne me correspond absolument pas.
Et que Saint-Denis, c'était mieux.
Bah, Saint-Denis, ça, c'est, voilà, ça a ses avantages aussi, parce que voilà, on est à côté de Paris.
Vous y êtes toujours à Saint-Denis ?
Moi, j'y suis en intermittence, parce que j'ai mes parents, et puis j'ai toujours mon studio là-bas. Donc, mais maintenant, je suis un peu plus loin en banlieue, donc en banlieue un peu verte pour respirer, mais la qualité de vie à Paris, est, c'est très compliqué. Tout est trop cher.
On parlait des différences entre les États-Unis et la France, toutes ces différences que vous épinglez dans votre livre et dont vous aviez fait d'ailleurs une bonne partie de votre premier One Man Show. Hein. Et vous racontiez, et vous racontez encore dans ce livre, à quel point, même dans une équipe de basket, les Noirs restent entre eux et les Blancs restent entre eux aussi. Hein.
Oui, bah
aux
après,
États-Unis. Ça, c'est vraiment différent de chez nous.
Ouais, c'est différent de chez nous parce que nous, on a tous grandi ensemble. Après, la société américaine, c'est beaucoup plus communautariste. Donc après, voilà, moi je vois ça de mon œil de français là-bas et je me dis, je refuse ce modèle-là parce que c'est pas le modèle dans lequel j'ai grandi et j'ai envie de parler à tout le monde. Je me sens bien avec le blanc, avec le latino, avec le noir américain.
Et avec les filles aussi, hein. Parce qu'un jour, peut-être qu'ils ne se parleront plus non plus.
Voilà, c'est ça aussi, parce que ça aide forcément.
Mais c'est à ce point, aux États-Unis, on est sur ses gardes dès l'instant où on est en communication avec l'autre sexe.
Oui, parce qu'en en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes codes que nous en termes de séduction. Pour eux, voilà, une rencontre, c'est un entretien d'embauche. C'est-à-dire que ça se passe en plusieurs étapes, c'est très robotisé.
Oui, c'est la première fois, on prend un verre, la deuxième fois, on dîne, et s'il y a une troisième fois, c'est bon.
Exactement, c'est un peu le principe de la date. Donc, nous, dans notre esprit de Latin lover, de latin, on n'est pas du tout là-dedans. On est, voilà, on est au ressenti, on a la séduction, au charme, et c'est pas du tout leur façon de réagir à eux. Donc, voilà, c'est ce qui me choque aussi là-bas. Après, bon, c'est chacun son truc. Et après, il y a aussi cette charge pénale qui pèse. On n'a pas envie de se retrouver au Newf, Fred.
Autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de skateurs. Sur la place de la République, c'est devenu le haut lieu du skate.
Ouais, bravo.
Et certaines jeunes associations féministes se plaignent d'ailleurs que tout est fait pour les garçons.
Ah, et ben,
c'est vrai que quand on regarde, aucune fille fait du skate.
Non, mais bon, va falloir faire une manif pour ça. Enfin.
Ah bah oui, mais c'est autant de mètres carrés réservés aux garçons.
Bah c'est vrai que...
Enfin, il y a encore des couples enlacés sur les bancs quand même. Hein.
Non, ça va, mais c'est vrai que putain, faire une belle place comme ça pour des skateurs, c'est vraiment se tirer une balle dans la fesse quand même.
on peut le voir comme ça aussi.
Europe 1, 11h30, en balade avec le comte de Bouderbala, Frédéric Taddeï.
Vous dites aussi dans votre livre que là-bas on boit jusqu'à être sous, jusqu'à vomir. Ça c'est vraiment la culture du spring break, d'ailleurs, sur les campus américains. On flirte en coma éthylique.
Exactement.
Ça aussi c'est très différent de nous. En France, on considérait que les vices n'étaient pas des crimes et qu'il fallait les apprivoiser. Aujourd'hui, on est peut-être sur la pente à vouloir aussi criminaliser les vices, hein, notamment l'alcool.
Ouais, on est là-dessus. Après, là-bas, bon, nous, on est quand même le pays du vin. Donc, moi, en tant que Français...
On en servait à la cantine aux enfants jusque dans les années 50. Ah, je sais pas s'ils étaient le bon exemple.
La belle époque. Non, aux États-Unis, c'est différent. On boit pour s'enivrer, on boit le vin dans des verres en plastique. Donc, c'est sacrilège, mais... Mais non, c'est un côté vraiment boire pour se désinhiber. Et puis voilà, c'est le côté que je vois moi en tant qu'universitaire que je raconte dans ce livre. C'est le côté des étudiants qui ont du mal aussi à aller les uns vers les autres. Et donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté, on boit pour outrepasser ses limites, mais surtout pour se désinhiber vis-à-vis du sexe opposé. Quoi.
Là devant nous, il y a cet endroit que vous fréquentez beaucoup.
Le Republic of Coffee.
C'est là où vous vouliez finir votre balade, et ben on va entrer.
Et ben très bien.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.
Bonjour. On va se mettre au bar, on est très bien. On est donc au Republic of Coffee, de boulevard Saint-Martin. C'est juste en face de votre théâtre. Et en fait, j'ai cru comprendre pendant la pause, on est chez votre ami d'enfance.
Exactement. C'est un camarade qui a repris ici, donc de Saint-Denis, Yazid.
Ah oui, c'est puis, Saint-Denis colonise toute la République.
Bah, Fred, c'est soit ça, soit les Chinois. Donc, mieux vaut prendre les mecs de Saint-Denis. Hein. Donc, c'est un petit endroit bien sympathique avec un excellent café, des thés, des gâteaux. C'est sympa.
Et c'est juste en face du théâtre, vous venez souvent ?
Ouais, après ils sont pas ouverts le soir, mais ouais. Dès qu'on bosse, on va se détendre ici, c'est cool.
On est à côté de l'endroit où Georges Méliès est né, en plus, il est né juste à côté là. Un exemple pour vous, Georges Méliès ?
Ah bah, le grand Georges, forcément.
Qu'est-ce que vous voulez boire, un café, j'imagine ?
Allez, un petit café, ça va se faire du bien.
Est-ce qu'on peut avoir deux cafés, s'il vous plaît, mademoiselle ?
Oui, bien sûr.
Expresso, c'est parfait. Ah, voilà. Saint-Denis veut du cappuccino.
Hein ? Ça sent bourgeoise, dites-moi. Hein ? Hein ? On se souvient plus d'où là où on vient ?
Quand je disais tout à l'heure à quelle facilité il faut résister quand on est humoriste, j'ai l'impression qu'il y a la bataille entre être trash ou pas trash, être gentil ou être méchant. J'ai l'impression qu'on est tout le temps comme ça dans l'hésitation. Enfin non, j'imagine que vous n'êtes pas dans l'hésitation, mais on a le choix en tout cas.
En fait, je veux dire franchement, dans les médias, je suis dans l'hésitation, mais sur scène, j'y vais, mais comme un sagouin. Parce que je pense que la scène...
Dans la méchanceté ?
Pas dans la méchanceté, mais dans... on se dit les choses. C'est ça, en fait.
Ouais.
C'est ce que je me dis. Je me dis, on est entre quatre murs. C'est vrai qu'on va pas se mentir. On peut plus dire maintenant les mêmes choses qu'on dit sur scène, à la télé, à la radio, sur Internet. C'est compliqué. Il y a trop de.
C'est pas le même public aussi.
C'est pas le même public.
Ceux qui viennent vous voir au théâtre, ils vous ont choisi, ils vous connaissent.
Exactement. Donc ça, c'est une facilité pour aller beaucoup plus loin dans les sujets et d'être beaucoup plus trash. Et c'est cette liberté d'exception. Qu'on a nous sur scène, donc il faut en profiter au maximum pour parler des choses qui nous touchent. Et c'est vrai que c'est compliqué maintenant de parler de beaucoup de sujets, que ce soit en radio ou en télé. C'est pour ça que moi je dis aux gens, venez nous voir sur scène, et que dès que j'ai une occasion, je les remercie d'être venus, de venir et de me soutenir, parce que sans le public, c'est très compliqué.
Vous voyez ce que font les autres, vous les écoutez, vous les regardez, il y a une émulation.
Oui, après, c'est un milieu très compétitif. Et après, les artistes entre eux, on va pas se mentir, beaucoup se détestent. Là, c'est aussi un panier de crabes, faut pas se mentir, mais c'est comme dans tous les milieux. C'est autre chose, mais on a la chance en France d'avoir un niveau d'humour très, très, très intéressant.
Oui, puis il y a eu des périodes, généralement, quand on débute, il y a toujours un phénomène de bande. Il y a eu ça du temps des cafés-théâtres. Il y a ça depuis que les humoristes font carrière à la télé d'abord. Ils en rencontrent d'autres. Vous aviez fait Barre de rire avec Thomas N. Gijol, avec Fabrice Eboué, Yacine Bellatar, Frédéric Chaud. Vous étiez toute une bande comme ça.
On était toute une bande. Et c'était moi, ce que j'appelle l'âge d'or de la comédie pour moi, de ma comédie à moi, parce que... déjà, on était jeunes et il y avait une formidable émulation. Après, il y a le libéralisme, voire l'ultralibéralisme qui est arrivé.
C'est quoi l'ultralibéralisme dans l'humour ?
C'est la production. C'est le milieu de la production. Parce que quand ça devient professionnel et que ça monte de niveau, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des enjeux que le public ne voit pas. Il y a et c'est là où après on voit les premières réticences des uns et des autres, les premières méfiances, les premières manipulations. Et il faut naviguer autour de ça et trouver le modèle économique et artistique qui te correspond le plus. C'est pas facile, mais c'est passionnant.
C'est vrai que le café est très très bon. Je propose d'écouter Julie London chanter Black Coffee en hommage à cet excellent breuvage.
Frédéric Taddeï se balade avec le comte de Boudherbala sur Europe 1.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. I'll never know a Sunday in this weekday room.
into the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go, when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on the way, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a loving, a woman's born to weep and fret, to stay home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around.
C'était Black Coffee, chanté par Julie London. On se retrouve juste après une pause avec le comte de Bouderbala au Republic of Coffee, son lieu d'élection. Nous sommes toujours au Republic of Coffee, 2 boulevard Saint-Martin, avec le comte de Bouderbala. On est sur le bar en carreau de céramique cassée. Il y a du plancher par terre, des gens avec des ordinateurs.
Boboland. Bienvenue à Boboland. La gentrification est en marche. Fuyez, Parisiens.
Fuyez.
La gentrification, c'est dans les deux sens, puisque les gars de Saint-Denis, comme vous et comme le propriétaire d'ici, sont venus s'installer. Donc,
voyez. Propriétaire à crédit, Fred, hein, faut le rappeler. Hein, on est à crédit sur 16 générations.
Ah, les bobos aussi, peut-être.
Ramasse, hein. On est à la ramasse, Fred, faut le dire aux gens, parce qu'ils vont me prendre pour un grand blindé après. Ah non, c'est pas ça, les amis. On fait 4 spectacles par jour, on n'en peut plus.
Quand est-ce que vous avez senti que ça commençait à marcher?
En fait, on ne sent jamais que ça commence à marcher. Moi, je me suis jamais dit, bah tiens, ça marche. C'est génial que ça marche, mais c'est un combat perpétuel. À partir du moment où on va sur scène, il faut convaincre les gens. Et chaque jour, c'est des personnes différentes, donc il faut les convaincre. Mais moi, je vois ça comme un, voilà, comme je dis souvent, c'est un apéro, c'est le prolongement d'un apéro entre amis. Donc c'est pas vraiment, moi j'arrive, je fais le spectacle, mais c'est aussi les gens qui me donnent du spectacle. En fait. Chaque soirée, c'est le public et moi, on arrive à faire une belle soirée.
C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'interactivité entre les humoristes et leur public. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus assister à un spectacle sans que l'humoriste...
Sans qu'il vienne nous emmerder.
À un moment, interpelle les gens, le premier rang.
Ouais, mais après, ça fait partie des classiques. Mais les gens demandent aussi ça. On sait pertinemment, quand on est client de stand-up, qu'à un moment, on va être interpellé. Tu te mets au premier rang, bah forcément, le mec il va venir t'embêter un petit peu, te titiller. Mais ça donne parfois des belles surprises. Et c'est ce qui est bien avec les artistes de stand-up, c'est qu'il y a une interactivité, il y a une convivialité, il y a une proximité qu'on ne voit pas au théâtre. Tu vas voir Arditi et Weber, tu leur dis rien, Arditi et Weber, alors que tu as envie de leur parler à un moment.
Ils étaient juste à côté au théâtre de la Porte Saint-Martin, hein, dans Tartuffe, il n'y a pas très longtemps.
Bah là, tu es dans le vrai théâtre, là c'est le théâtre. Là tu n'es pas chez les clochards du stand-up. Hein.
On parle de stand-up, et maintenant tout le monde fait du stand-up, c'est-à-dire reste debout, seul sur scène et raconte sa vie, ou du moins raconte ce qui semblerait être sa vie. Autrefois, on faisait des sketchs.
Mais c'est pas sa vie. Hein. C'est, en fait, on parle de sujets et on donne un point de vue.
Ouais.
C'est très personnalisé.
Mais on est loin des sketchs d'autrefois. Quand vous écoutez les humoristes d'autrefois, les Coluche...
Mais c'était du stand-up.
Ah, c'est des parfois, sketchs. Coluche, il jouait le CRS arabe. Ouais. Il jouait le... Aujourd'hui, c'est plus possible, ça.
Si, c'est encore, ça se fait encore. Il y a de super artistes de sketchs qui marchent très bien, mais... les gens veulent aussi qu'on leur parle.
Ils veulent du vrai, ils veulent la vérité, comme dans les livres, comme dans les films. Il faut que ce soit inspiré de faits réels.
Bah ouais, c'est parce que je pense que c'est aussi un pragmatisme. C'est qu'ils veulent qu'on leur raconte des histoires et qu'on soit impliqué dans ce... En fait, dans le stand-up, on responsabilise sa parole. Dans le sketch, on est caché aussi. Quand tu fais le CRS arabe, ok, c'est génial, sauf... Tu es un personnage et tu dis pas ce que tu penses. Dans le stand-up, c'est toi qui parles. Donc si tu vas dans du trash,
je disais ce qu'il pensait aussi, mais de façon indirecte.
Ouais, t'es
aujourd'hui
un peu...
c'est plus clair.
Bah, je vais pas dire que c'est un peu plus courageux le stand-up, mais Coluche il faisait aussi du stand-up. Ouais. Il faisait du stand-up, des proches faisaient du stand-up, Bigard faisait Smaïn, même tous les anciens, Pierre Dac, Francis Blanche. Souvent quand je parle du caveau de la République, les mecs faisaient du stand-up. Les chansonniers, c'est des gars de stand-up aussi. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup fait mis la frontière entre les sketchs et stand-up. Il n'y a pas de frontière. Parce que dans le stand-up, il y a un moment, tu vas partir en sketch et tu vas jouer des personnages. Donc, il n'y a pas vraiment de... C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est complémentaire, je pense.
Et le prochain spectacle, alors le troisième, il s'appellera comment ?
Bah, on va partir sur le 3. Hein.
Le compte de Bouderbala 3.
On va pas se prendre la tête. Le mec se prend pour Rocky. Donc, on va enchaîner sur 3, mais avec des sujets bah, voilà, qui me tiennent plus à cœur. Et un peu plus cruel, on va dire. Voilà, on va partir un peu dans des sujets sérieux.
C'est à partir de quand ?
Ça va être courant 2020. Donc là, on est en peaufinement et puis on avance. Et ça va être, j'espère que ça va être sympa.
Et à quel moment vous saurez que c'est bon et vous pouvez y aller ?
Ça va être immédiat hein, quand on saura que, quand il y aura une récurrence du rire et que, en fait, c'est souvent l'artiste qui, quand il est fier de ce qu'il a présenté, il y va et il se dit ok, c'est le moment, on peut lancer. Mais bon, au départ, il y a une souffrance qui prend du temps.
Et votre livre, Amazing, vous comptez en faire une comédie avec Jonas Hill dans le rôle de, dans le rôle de Sami Hamzian ?
On ne sait pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Pourquoi pas jouer son propre rôle, ça peut être marrant.
Oui, pourquoi pas, oui.
Mais encore faut-il se rajouter des cheveux et reprendre des muscles, mais... Non, après, moi j'ai réfléchi parce que j'ai envie que ça aille au cinéma, forcément. Après,
tous les humoristes veulent faire du cinéma, mais vous savez bien qu'à ce moment-là, on se remet entre les mains d'un autre, d'un réalisateur. Et...
Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on essaie de. Enfin, moi j'essaie de réfléchir à comment faire passer mes idées aussi en réalisation, parce que forcément, t'écris un scénar, tu réalises de facto. Selon comment tu décris tout le schmilblick, mais oui, c'est le cinéma c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est pas, je tuerais pas ma père et mère pour le cinéma, forcément.
Merci Samy, Comte de Bouderbala, de nous avoir emmené en balade avec vous. Je rappelle que vous jouez le Comte de Bouderbala numéro 2, votre spectacle au République tous les soirs, votre théâtre.
Pratiquement tous les soirs. Ouais.
Vous venez de publier Amazing. Le livre qui raconte votre année universitaire dans le Connecticut, c'est chez AS Prod Éditions. On va remercier Fernando, le propriétaire du Biondi, le restaurant à Jean-Jantin de la rue Amelot. On va remercier aussi le propriétaire de Republic of Coffee, dans lequel nous trouvons, 2 boulevard Saint-Martin, votre copain d'enfance. Merci de nous avoir suivis, bon dimanche, on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Frédéric Taddeï, en balade avec le comte de Bouderbala sur Europe 1.